Bienvenue à épisode 16 de Québécois. Bonjour Charles.
Bonjour Gabriel.
Et qu'en es-tu content d'être là encore une fois aujourd'hui? Mes amis, il nous est arrivé un petit glitch technique, on va dire. Fait qu'on enregistre le podcast pour une deuxième fois.
Ouais, ben, c'est un apprentissage.
C'est un apprentissage.
Soyez assurés que je suis toujours aussi triggered par les féministes.
Un privilège pour moi de pouvoir dire que je suis devant vous comme la première mairesse de Montréal.
Moi puis Charles, on a été un petit peu déçus.
Ben, c'est-à-dire que j'ai surtout été déçu par le taux de participation.
C'est triste.
43% à Montréal, c'est un peu bas considérant les enjeux.
Les gens, moi, je pense que les gens pensent vraiment que la politique municipale, c'est pas important. Je pense que c'est ça le problème. Puis, en réalité, c'est peut-être l'endroit où ton vote peut avoir le plus d'impact. Parce que c'est, on est, comme on l'a répété à plusieurs reprises, la politique municipale, c'est notre business de tous les jours. On l'a dans la face du matin jusqu'au soir. C'est là que ça compte le plus. Fait que, dommage pour ceux qui n'ont pas voté. Maintenant, on se retrouve avec Mme Plante. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Personnellement, je suis pas trop... Mettons, je suis pas trop excité de ce qu'elle a dit depuis qu'elle a été élue. Là. Moi, elle a juste continué à dire les mêmes vacheries qu'elle disait avant. Vide de sens, etc.
Moi, je suis quand même prêt à laisser la chance à la coureuse.
Oui, oui. Là, maintenant qu'elle est là, il faut qu'on vive avec. Fait que moi, je vais dire... j'aimerais ça qu'elle fasse une bonne job. J'aimerais ça qu'elle fasse des bonnes choses. Puis on va lui souhaiter toute la chance du monde. Moi, je veux quand même qu'elle réussisse. Là, je veux pas qu'elle mette Montréal dans la merde. J'ai vraiment pas envie de ça du tout. Fait que on va lui souhaiter bonne chance et plein de succès. Puis espérons qu'elle va s'entourer de monde qui savent ce qu'ils font.
Ouais, J'imagine que ça va bien aller. Là. De toute façon, elle pourrait juste continuer qu'est-ce que Denis Coderre faisait depuis 4 ans, puis elle aurait un bon mandat.
Ouais, puis ça serait déjà bon. Absolument.
Ou, à contrario, elle pourrait juste ne strictement rien faire et retirer le gouvernement progressivement de l'économie, baisser les taxes, baisser les impôts fonciers, et puis là, on verrait soudainement Montréal se développer au même rythme peut-être que ce qu'on avait au début du siècle où le gouvernement était plus petit. Fait qu'il y a deux options. Elle peut continuer. Ou alors, elle peut juste se retirer, ce qui risque pas d'arriver avec Projet Montréal. Mais le fait est que Montréal est sur une bonne lancée. Fait que ce serait difficile de gâcher ça. Il faudrait essayer fort.
C'est encore drôle. C'est... déjà, elle a déjà été dans les nouvelles cette semaine pour dire que toutes les affaires qu'elle a promis, il fallait que ça se paye. Fait que ça laisse sous-entendre que son intention est peut-être pas nécessairement de baisser les taxes.
C'est sûr que les politiciens, dès qu'ils arrivent en poste, immédiatement rétablissent les faits et immédiatement... nos journalistes commencent finalement à faire leur job. Ils disent « Hey, minute, là, faudrait chiffrer ça. »
Mais ça, c'est frustrant. Ben oui. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas fait leur job pendant qu'elle était en campagne? Il y a des questions qui lui ont été posées après qui auraient dû clairement être posées avant.
Oui, ben ça, c'est un petit peu ce que moi, je reproche à nos médias au Québec. C'est qu'ils sont très complaisants envers le candidat qu'ils ont décidé de supporter un peu implicitement.
Mais j'ai rarement vu ça aussi flagrant que dans le cas de Denis Coderre puis de Valérie Plante. Denis Coderre ne pouvait rien faire. Là. Tout ce qu'il faisait, c'était mal. Il sortait, c'était mal. Il regardait à gauche, c'était mal. Tout ce qu'il faisait était mal. Puis Valérie Plante, là, écoute, elle aurait pu faire un gros caca dans le milieu de la rue. Puis le monde aurait dit « Ah, mon Dieu, regardez les belles fleurs! »
Quoique, il y avait Patrice Roy à l'antenne de RDI, je me trompe pas, là, qui avait posé quand même des questions contraignantes et dans lesquelles elle avait candidement avoué ne pas avoir chiffré plusieurs de ses promesses. Et là, il lui avait fait un reproche en direct à TV, je ne m'en revenais pas. C'est surprenant, en fait, parce que d'habitude, Patrice Roy ne se mouille pas autant que ça. Il avait dit, mais chiffrer une promesse, c'est quand même la base en politique. Il avait tout à fait raison. Ouais, elle était un peu prise au dépourvu et son agacement était quand même assez palpable. Mais j'aurais souhaité que les journalistes reviennent à la charge avec ça, en disant, avez-vous chiffré telle affaire? Avez-vous fait vos devoirs? Comment vous arrivez à cette proposition-là? Comment cette idée-là s'inscrit dans le grand ensemble que vous voyez? C'est quoi votre vision stratégique? Parce que ce que j'avais l'impression, c'est que Mme Plante avait plus l'air de postuler sur un poste administratif. Elle va gérer 10 employés, gérer des petits projets, bon. Puis, on dirait qu'elle ne semble pas avoir une vision stratégique à long terme.
C'est pas le maire qui gère. Il y a des employés là, pour ça. Des civil servants en français, comment on dit ça, des fonctionnaires. Tu sais, il y a des fonctionnaires dans la mairie. En fait, à Montréal, on a une quantité astronomique de fonctionnaires.
Oh, c'est horrible comment c'est gros.
On a une masse salariale qui rivalise celle de la ville de New York. Fait que, tu sais,
je pense même que c'est même plus que New York.
Sûrement. Fait que Valérie, elle n'aura pas grand-chose à gérer. Ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est établir les lignes, établir la direction. Donner une vision à la ville, avoir des idées vraiment pour le futur. Fait que ces petits projets, puis sa petite gestion, là, je pense qu'elle va se trouver surprise. C'est pour ça que je disais au début, j'espère qu'elle va être bien entourée, j'espère qu'elle va écouter ses conseillers, puis qu'elle va savoir prendre les bonnes décisions. Elle n'a pas l'air stupide, elle a quand même l'air peut-être assez intelligente.
Ah ben, elle maîtrise en anthropologie, c'est quand même une personne très éduquée. Puis c'est quand même... Les gens vont souvent dénigrer certaines disciplines des sciences humaines, mais...
Nous autres, les premiers.
Ça dépend lesquelles. Si c'est fait avec un angle un peu néo-marxiste, alors oui, c'est très pratique.
comme nos favoris féministes.
Oui. Mais toujours est-il qu'il y a moyen d'avoir de très, très bons travaux académiques en anthropologie, en sociologie, en histoire. Bon, c'est toutes des disciplines très intéressantes. Et elle... diplômée de maîtrise en anthropologie de l'Université de Montréal. Et ça paraissait, en quelque part, ça paraissait qu'elle avait une approche avec les gens, qu'elle comprenait peut-être la société d'une façon peut-être plus intime que Denis Coderre.
Ouais.
Et elle a été capable de rejoindre beaucoup de gens qui sont sortis pour aller voter. Puis comme le taux de participation était bas,
ça a été à son avantage.
Ça prend moins de monde pour faire pencher la balance de son côté.
Il n'y avait pas une énorme différence. Là. En termes de pourcentage, là, c'était quoi, 5-6%?
Ah oui, c'est ça.
Fait qu'on ne peut pas dire que Mme Plante... Puis j'ai trouvé ça drôle, moi, dans les médias. À la une des médias, on disait qu'elle l'avait écrasée.
Ouais, victoire fracassante.
Victoire fracassante. Hey, 6%. Elle est où? Il est où le fracas?
Je pense que le fracas, c'est qu'en pourcentage, il n'y a pas un énorme écart, mais comme on est dans un système uninominal à un tour, elle a remporté de nombreuses mairies d'arrondissement, de nombreux postes de conseillers. Et en termes de... Quand on compare le prorata avec le pourcentage, ben l'écart est quand même très là. Et c'est vrai que quand on regarde la couleur de la ville, ça a changé. Il y a eu un gros mouvement de son côté. Mais ça n'a pas pris beaucoup de votes. C'est ça. C'est quand le pourcentage de votes est faible, c'est mathématique. Coderre, lui, faisait très bien. Il allait se rencontrer les compagnies en Europe qui veulent fuir le Brexit. Il disait, à Montréal, ça se passe. Il envoyait des missions économiques. Il envoyait des gens sur le terrain.
Il est souvent critiqué pour ça aussi. Hein. Les gens ne semblent pas réaliser à quel point c'est important de faire ce PR-là. Des villes dans le monde, il y en a en masse. Oui. Et puis, si tu ne viens pas te montrer la face, ils ne viendront pas. Là. L'idée de venir à Montréal ne va pas spontanément apparaître dans les têtes des dirigeants exécutifs des grosses entreprises.
Et Montréal est... Les gens tournaient ça un peu en dérision quand Denis Coderre disait « On a remis Montréal sur la map ». Il dit « Mais il a toujours été là, hein? De quelle map est-ce qu'on parle ?» Mais quand on regarde, là, puis je suis de très près à l'actualité financière depuis des années, et Montréal maintenant pop régulièrement, voire presque systématiquement dans les palmarès mondiaux. Que ce soit en termes d'investissement étranger, que ce soit en termes de tourisme ou de développement économique, Montréal elle rivalise avec les meilleures villes au monde.
Moi, ça fait 20 ans que j'habite ici, puis ça n'a jamais été comme ça.
Non, c'est quelque chose qui est récent.
Pas au point qu'on l'a là. Puis ça, selon moi, c'est le travail de Denis Coderre en partie. C'est sûr qu'il bénéficie aussi de certaines mission économique des autres paliers de gouvernement, mais il y en a quand même ça pour sa part de responsabilité. Ouais. Est-ce que Valérie Plante va être capable de continuer ce travail-là? Je ne sais pas.
Parce que ultimement, on dit souvent, les gens votent avec leurs pieds. Il faut leur donner envie de continuer de venir à Montréal. En 2016, on a eu pour 1,3 milliard d'investissements étrangers. La moitié de ça, c'était des nouvelles technologies. Intelligence artificielle, informatique, base de données, réseautique. Bon, c'est tous des domaines d'avenir, des jobs bien payants. On veut ça à Montréal. Faut que ça continue.
Ouais.
Montréal est sur une belle lancée, donc je souhaite la meilleure des chances à la nouvelle mairesse. Et ultimement, tout le Québec devrait souhaiter bonne chance parce que Montréal est sans l'ombre d'un doute la locomotive économique de la province. Si Montréal va bien, le reste du Québec va bien aussi.
Le 19 novembre, on vous avait promis de vous dévoiler c'est quoi qui se passe le 19 novembre. On a eu des suggestions, j'en ai eu quelques-unes qui m'ont été envoyées. Personne n'a deviné comment on pensait que ça allait se passer. Le 19 novembre, Charles, je veux te souhaiter une excellente journée du 19 novembre.
Toi aussi, Gabriel.
Ben merci. Ça donne que j'ai des tests à passer cette journée-là à l'UQAM. Fait qu'on va voir si ça va être, je vais avoir la chance de mon côté ou pas. Mais pour nos auditeurs, le 19 novembre, de qu'est-ce qu'on célèbre?
Le 19 novembre, c'est la journée internationale des messieurs.
Ouais! Wouhou!
Un peu à la manière du 8 mars, qui est la journée internationale de la femme, l'équivalent pour les hommes existe. Malheureusement, les journalistes n'en ont jamais vraiment parlé. C'est bien rare que c'est soulevé dans les médias. Ouais.
Et, moi, et quand c'est fait. Je l'ai vu soulever une fois à la télévision américaine, puis c'était pour faire une joke.
Ben, en fait, c'est exactement ça. C'est que c'est souvent amené pour le tourner en dérision. Dire, ah, ben oui, les hommes, de quoi on pourrait bien parler d'eux autres? Ils n'ont aucun problème, c'est ridicule. Parlons plutôt des femmes. Alors, s'ils vont en parler, ils vont parler pour les femmes.
Ouais.
Puis. C'est correct qu'il y ait une journée internationale de la femme, une journée où on va regarder les problématiques auxquelles elles font face plus particulièrement, mais sachez, puis on va en discuter plus en détail aujourd'hui, que les hommes font face à des problématiques de façon plus particulière, et ce serait tout simplement normal d'avoir un espace de dialogue ou de conversation dans l'espace public pour en discuter. Un très bon exemple de ça, c'est la députée britannique Jess Phillips, qui est devenue notoirement connue sur Internet pour une intervention qu'elle a faite au Parlement. Elle a tourné en dérision, elle a même un discours assez vindicatif là, à l'endroit d'un collègue qui suggérait...
Philip Davies.
Ouais, hein? Lui, il suggérait qu'on tienne une journée spéciale pour le 19 novembre pour discuter des enjeux masculins au Parlement britannique. Elle a été vraiment très mesquine à son endroit.
Ouais, je pense que c'est peut-être le temps. On va vous en jouer un extrait.
Ouais.
Right, Philip. An application about International Men's Day.
Yes, indeed, Mr. Chairman. My pitch is a fairly straightforward one, in the sense that every year since I can remember, certainly since I've been a member of this House, which is 10 years now, we've had an annual debate, and in the last few years, this committee has granted one. In fact, I think I was on the committee when it did grant the debate for International Women's Day, and that's been held every single year. And so I thought that in the spirit of gender equality, it would only be right to have a debate to commemorate International Men's Day, which conveniently falls on Thursday the 19th of November, which is a date when you may or may not have some time to allocate, so it will be very fitting. Because, of course, not only do we have International Women's Day, we also have women and equality questions every month in the Chamber, which we don't have for men. So the opportunity for men to raise issues that are important to them is very limited. And just to give you a flavour, Mr. Chairman, of the type of things that may come up and which will be part of International Men's Day. I'm not entirely sure why it's so humorous, but to discuss issues such as men's shorter life expectancy, wider male health issues, many of which go unreported through embarrassment of men to sort of go along and talk about these things, the high suicide rate amongst men, the propensity for violence against men. There's many male victims of domestic violence. Again, as something that goes very much unreported because of lots of embarrassment about it. The underachievement of boys in education compared to girls. The issues around father-child relationships and often the way that fathers sometimes feel they don't get a fair crack of the whip in terms of custody of their children and things like that. These are all issues that affect an awful lot of people around the country, whether people agree with some people's views or not. I think it's important that the House of Commons debates these issues. I think people can recognise that they are all very real issues for many people in the country. And so in the spirit of gender equality, given that we have the debate each year on International Women's Day, which I suspect will continue under this committee, I thought it would only be fair that we had an opportunity to debate these issues under the flag of International Men's Day, which is this year on Thursday the 19th of November.
Thank you very much. Questions? Jess?
You have to excuse me for laughing, that the idea that men don't have the opportunity to ask questions in this place is a frankly laughable thing. As I say, as the only woman on this committee, it seems like every day to me is...
Well, I wasn't making the point that men don't have an opportunity to ask. I was about men's issues. There's a very big difference between men raising issues and the raising of men's issues.
But one could raise men's issues in any single one of the question sessions. So your men's health, absolutely. So prostate cancer, that could be raised in men's questions, couldn't it?
Well, I very much look forward to these arguments being deployed when we come to consider a debate on International Women's Day, because exactly the same arguments could be raised for International Women's Day, that women's health issues, that equality issues could be raised in women and equality questions in other forms. So all I ask is for an equal crack of the whip, that if those issues can be raised in without having a debate on International Men's Day, then obviously the same issues can apply for when it comes to International Women's Day. But those arguments have never won the day before this committee.
Ça, c'est le ton général qui ressort.
Incroyable.
C'est incroyable. C'est comme si pour elle, c'était impossible de considérer qu'il puisse avoir une telle chose que... des enjeux masculins.
Je ne comprends pas. Puis moi, c'est ça qui met la rage au derrière. C'est que comment ça se fait que les enjeux masculins, c'est pas important? J'essaie de comprendre si on inverse, puis on fait ça avec les enjeux féminins, my God, tu te fais crucifier dans la place publique. Ça serait impensable de rire des enjeux féminins. Puis j'ai pas envie de rire des enjeux féminins. Mais comment ça se fait que toutes les femmes trouvent ça drôle de rire des enjeux masculins? Comme si ça n'existait pas. Mais oui, ça existe. Puis vous allez voir, on va vous en parler aujourd'hui. Il y en a. Okay? Il y en a-tu plus que les enjeux féminins? Pouf, je sais pas. C'est-tu important qui en a le plus? Pas vraiment. Un enjeu, c'est un enjeu. Puis il se mérite tout d'être discuté, d'être réglé, puis d'être affronté.
Surtout qu'à bien des égards, dans certaines situations, certains problèmes sont très sévères. On parle c'est pas juste une question d'un caprice, là. C'est vraiment une question de santé publique.
Oui.
Et on n'a pas le choix un petit peu de passer par la bande et parler un peu de féminisme encore une fois. On avait abordé avec notre invité, je crois que c'était au début, là, épisode 4-5, dans ce coin-là. On avait eu l'occasion d'aborder certains sujets d'enjeux plus féminins, notamment. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est un peu comme tu le disais, les enjeux masculins sont souvent sous-estimés ou un peu tassés sur le côté.
Oui, c'est pas important. Là.
Un peu de la même façon que le féministe est comme un peu exigé comme position par défaut sur la place publique. Une personne qui dit « Non, moi, je suis pas féministe », ben, justement, on la traite avec suspicion. Je trouve qu'il y a comme un traitement différentiel qui est un peu inadéquat. On devrait juste traiter les idées à leur mérite, indépendamment de qui les dit. T'sais, c'est pas important que ce soit un enjeu masculin ou un enjeu féminin. Ce qui compte, c'est qu'on a un espace pour discuter.
Oui, c'est un enjeu.
Présentement, c'est que le problème avec les groupes féministes, c'est qu'il y en a qui militent activement pour contrôler l'espace de conversation au niveau des enjeux de genre, de sexe, d'identification sexuelle, bon, voire même de race.
Le problème avec ces groupes-là, c'est pas le fait de militer pour des enjeux féministes, c'est que c'est comme si que le simple fait de militer pour un enjeu masculin était comme un anti-féministe. tu sais, que tu pouvais pas avoir la lutte pour les enjeux féminins si, en même temps, on faisait une lutte pour certains aspects de la vie des hommes. OK? Puis moi, je pense que c'est faux. C'est, un n'exclut pas l'autre. On va pas arrêter de se battre pour les droits civils de tel groupe parce qu'un autre groupe en veut. En fait, ça serait peut-être plus simple si tout le monde faisait tout en même temps, mais ça, c'est une autre histoire.
Il y a l'actrice Emma Watson, celle qui jouait Hermione Harry Potter. Elle a fait un discours à l'ONU dans le cadre de la campagne He for She.
J'ai envie de savoir, moi, qu'est-ce qui la rend... qui donne un pedigree pour aller parler
de féminin. C'est une personnalité publique. Elle a fait littérature anglaise à Browns. Ça prend des porte-paroles qui sont connues en quelque part, parce que t'as bien beau avoir le plus grand génie, si personne le connaît, bon, ben, l'histoire s'arrête là. Fait que toujours est-il qu'Emma Watson a fait un discours... Elle a jeté un œil, c'est quand même très intéressant. Elle commence le discours en disant que, selon ses recherches qu'elle a fait sur le plan personnel, le féminisme était devenu un mot un peu négatif, qui était souvent associé à une insulte, voire à de la misandrie. Ça, c'est le mot pour dire la haine du genre masculin. Et elle a tout à fait raison. Au Canada, présentement, c'est à peu près 17% des gens qui se déclarent féministes, malgré un appui massif à la cause de l'égalité. Donc, moi, ça me laisse croire que le féminisme n'est plus la bonne cause pour... Hein, pour porter, excuse-moi, c'est plus le bon mouvement pour porter la cause de l'égalité. Et c'est un petit peu ça le problème que j'ai, parce qu'il se manifeste particulièrement bien à l'occasion de la Journée internationale de l'homme. Les groupes féministes, comme tu le disais, perçoivent toute forme de discussion d'enjeux masculins comme une agression envers les enjeux féminins, parce que c'est pas exprimé selon leurs termes, selon leur cadre théorique, selon leur forme de discours, parce qu'elles exigent, au fond, c'est une forme de contrôle quasi hégémonique sur le discours. On ne peut pas s'exprimer sur des enjeux, par exemple, masculins ou féminins, sans parler de hiérarchisation des rapports de force ou de « power dynamics », comme ils disent les Anglais. Ça fait en sorte que le débat devient très stérile rapidement, parce qu'elles imposent, du moins cherchent à imposer, un dialogue très, très spécifique qui, évidemment, met les hommes systématiquement au banc des accusés. C'est un mouvement qui est devenu largement anti-homme et c'est sans surprise qu'il est si peu populaire parce que c'est visible à l'œil nu à quel point elles sont désagréables. De mon expérience personnelle, c'est un mouvement qui est rendu très toxique.
C'est intéressant, ça, parce que ce que je comprends pas, en fait, c'est que les gens... On semble leur laisser la parole. C'est rare qu'on les reprend. On diffuse le petit protest, puis on les laisse parler, puis on fait jamais l'autre côté de cette histoire-là. Puis la journée du 19 novembre, moi, je vois ça un peu comme ça. Fait que, on vous a dit qu'il y a des enjeux. C'est pas faux, puis on va vous en parler aujourd'hui de quelques statistiques assez... intéressante, voire même surprenante, et dans certains cas, moi je dirais même choquante, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de toutes sortes de choses. Puis c'est des sujets, c'est quasiment tabou. On n'en parle pas, on n'entend jamais parler de ces affaires-là.
Ça va être tabou dans la société parce que les gens en position d'autorité vont avoir peur de se faire traiter de misogyne s'ils les endossent. Puis sans doute, un des exemples récents les plus frappants, mais moi, j'en revenais pas de voir ça, c'était l'Association canadienne pour l'égalité. Tu peux pas avoir, tu sais, ça peut pas être plus clair que ça. Association canadienne pour l'égalité, en 2015, ils tenaient un colloque à l'Université York sur le suicide des jeunes garçons. On s'entend, là, c'est quand même un sujet sérieux. Il y avait plusieurs conférenciers, conférencières, des professeurs d'université qui venaient parler du sujet.
Puis là, petite parenthèse, en passant, le suicide des jeunes garçons, là, c'est un réel problème. Okay? Il y a une différence massive dans les statistiques par rapport au suicide de garçons versus les jeunes filles. Fait que il y a raison de se questionner.
Oui, et ce qui est un peu... c'est un peu curieux, c'est un peu le paradoxe du suicide chez les jeunes. C'est que les jeunes filles font davantage de tentatives. Mais comme elles utilisent souvent des moyens moins violents ou du moins ils vont moins jusqu'au bout. C'est plus, c'est maintenant plus considéré comme des appels à l'aide sans vouloir minimiser ce qu'elles vivent. Alors que les jeunes garçons, ils vont vraiment avec des mesures drastiques qui laissent aucune chance de survie. C'est une souffrance profonde qui n'est pas adressée. Et quand on regarde, là, 80% des suicides chez les jeunes de moins de 24 ans, c'est des dépressions non diagnostiquées qui devraient être traitées. Et on sait que statistiquement, les jeunes garçons reçoivent moins d'attention médicale et ont moins tendance à aller en chercher. Fait que si tu as une population qui a moins tendance à aller chercher de l'aide médicale, ben voilà un bel exemple de sensibilisation qui pourrait être amenée. Mm-hmm. Et moi, j'ai aucun problème parce que les féministes prennent finalement acte et défendent l'égalité. Ce serait ça un petit peu de sensibiliser mais aussi
ça,
les hommes.
Mais c'était ça le féministe au début, là. C'était ça l'intention. C'était pas de massacrer les hommes puis de les faire disparaître puis de tout nous faire passer pour une gang de sans dessin. Puis là, c'est vrai qu'en ce moment, dans les médias, on parle beaucoup de d'agression sexuelle puis tout le kit. Là. Puis là, c'est sûr qu'il y a une marge de personnes qui sont comme ça. Là. Ça enlève pas l'autre côté de dire qu'il y a quand même des problèmes qui se méritent d'être adressés.
Ouais. Mais tu sais, c'est qu'il ne faut pas non plus généraliser.
Oui.
Mettons, au niveau de la criminalité, tu as à peu près 2% de population qui va faire plus de la moitié de tes crimes. Là. C'est des gens avec des tendances sociopathiques qui tirent plaisir de la situation. Ils savent qu'il faut commettre un crime, puis ça les rend très heureux. Pour revenir au colloque de l'Université York, c'est une occasion pour les intervenants du milieu de venir parler. Pour les gens qui ont vécu ce drame-là de proches, des amis ou la famille, de venir s'exprimer, entendre, faire un petit peu leur deuil en quelque part. Et à la seconde où ça a commencé, il y a plusieurs groupes féministes qui sont débarqués là avec des haut-parleurs, ils ont fait du bruit, ils ont interrompu les conférenciers, ils ont déclenché l'alarme de feu, l'immeuble a dû être évacué. Puis on parle quand même d'une université, là. Hein? La liberté d'expression dans une université, c'est quand même la base. Et
ça devrait être la base.
Et les vidéos de ça, parce que maintenant que le téléphone cellulaire, chacun devient un petit journaliste, les vidéos sur YouTube ont été agrégées. Et l'attitude des féministes est toujours la même. Très vindicative, très agressive, surtout très anti-homme. Ça me surprend à quel point c'était négatif. Et c'est là qu'on a connu la légendaire Big Red. Allez voir ça sur YouTube, c'est de toute beauté. C'est vraiment une personne très, très désagréable. C'est vraiment difficile, selon ce que je peux constater, d'avoir une conversation civilisée avec cette femme-là. Et malheureusement, tout simple pratique, la conférence de l'Association canadienne pour l'égalité sur le suicide des jeunes garçons a été complètement crashée par les féministes. Et les exemples comme ceux-là, il y en a plein. Chaque fois qu'on essaie d'amener dans le spotlight des enjeux masculins, on trouve toujours les féministes dans le chemin, non pas côte à côte. Et ça, c'est regrettable, parce que pour un mouvement qui dit défendre l'égalité, moi, je le vois pas.
C'est plus comme ça. C'est plus comme ça. Ça fait longtemps que c'est plus comme ça.
Mais c'est un peu pour ça que moi, ça me dérange quand on dit si t'es pour l'égalité, t'es automatiquement féministe. Comme si les mots étaient interchangeables.
Mais c'est parce que le mot féministe ou féminisme a été redéfini par une petite gang de monde d'une façon extrême. Tu sais, c'est pas le mot en soi, c'est qu'est-ce qu'ils en ont fait avec ce mouvement-là. C'était un beau mouvement, le féminisme, dans les années 60, 50, 40, tu sais, les suffragettes, puis tout le travail qu'ils ont fait. Oui, il y avait des belles histoires dans ça, mais là, wow! Quand t'es rendu que tu t'attaques à des familles qui ont perdu leur fils ou qui ont perdu leur père, c'est un peu extrême. C'est pas... en tout cas.
Moi, je me souviens de Dolly Stério qui avait fait une sortie en disant qu'elle était pas féministe, mais plutôt égalitariste. Et là, ça avait soulevé l'ire de ces groupes-là. Et c'est un petit peu ça, le problème. Ça, c'est... Les prémices théoriques du féminisme sont incompatibles avec la liberté d'expression. C'est incompatible. Parce qu'aujourd'hui, là, la doctrine principale, c'est l'intersectionnalité. Ça, c'est des universitaires qui ont décidé de mettre les gens dans des boîtes en fonction de leurs déterminants identitaires, par exemple, homme, femme, hétérosexuel, homosexuel, la race, la grandeur, tous les critères auxquels vous pouvez penser sont hiérarchisés. Et puis là, on vous met dans une case, puis on vous dit, ben voici c'est quoi tes facteurs d'oppression, puis tes factures, puis tes facteurs de domination. Ah oui, c'est attribuer à un individu un crime collectif, un peu comme les marxistes faisaient avec les classes, sauf que là, c'est des classes sociales, ce qui fait du féminisme, tout simple pratique, un néo-marxisme. Et c'est la négation de l'individu et de sa responsabilité individuelle. C'est pas parce que t'es un homme blanc que t'es nécessairement un oppresseur. Mm-hmm. Il y a des hommes blancs, par exemple, hein, c'est notre deuxième statistique, l'immense majorité des itinérants sont des hommes.
Mm-hmm.
Beaucoup sont d'anciens vétérans, des autochtones, mm-hmm. des gens avec des problèmes de toxicomanie. Les hommes ont d'ailleurs beaucoup plus de problèmes que les femmes au niveau de toxicomanie, mm-hmm. consommation d'alcool, dépendance au jeu. Les hommes ont tendance, de façon plus générale, à être assez extrêmes. Mm-hmm. Ils vont plus loin, plus fort, et souvent, ça les tue. L'espérance de vie aussi des hommes est beaucoup plus basse.
Exactement.
Mais clairement, là, tu peux retrouver des gens très favorisés ou très défavorisés, puis il n'y aura aucun lien avec leurs déterminants identitaires. Mais c'est que les féministes l'érigent en dogme et ça ferme la conversation. Ça fait en sorte que dès que tu es un homme, soudainement, tu n'as plus le droit de t'exprimer sur certaines questions. Et c'est entre autres pour cette raison-là qu'on ne peut pas parler vraiment de la Journée internationale de l'homme dans l'espace public parce que c'est perçu comme une attaque sur les femmes. À cause de cette hiérarchie qu'elles ont créée de toutes pièces. Mm-hmm. Elle n'existe pas. C'est une fabulation de l'esprit.
Absolument. Ouais.
Non, et quand tu as un groupe qui pousse une position dogmatique en censurant le discours public, à tout simple pratique, c'est rendu un culte. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont pas comme ça. Beaucoup de féministes qui sont pas comme ça.
La majorité sont pas comme ça.
Mais le problème, c'est que le mouvement tel qu'il est présentement, il est comme ça. Ouais. Quand on regarde du côté des organisations, que ce soit la Fédération des femmes du Québec, le Conseil du statut de la femme, leur penchant dans le reste du Canada aux États-Unis, ce ne sont que des groupes de femmes, par des femmes, pour des femmes, largement subventionnés par les gouvernements, donc par nos impôts. Il n'y a pas un homme sur leur conseil d'administration. Puis c'est correct que ce soit des groupes de femmes, par des femmes, pour des femmes. C'est correct. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucun équilibre au niveau masculin.
Mais c'est correct, puis c'est pas correct, Charles. Parce que essaye de te créer un groupe pour les hommes, par les hommes, avec que des hommes, puis ça va pas être long qu'il y ait une femme qui va venir, qui va essayer de rentrer dans ton groupe, puis qui va te traîner en cours pour te faire accepter. Il y a un double standard là, de ce côté-là. Puis on le voit dans beaucoup de lieux. Tu sais qu'il y a des gyms qui sont ouverts, qui sont juste pour les filles. Puis c'est correct. Je comprends les raisons pourquoi que les femmes voudraient aller dans un gym puis pas se faire écœurer par des ginos à chaque fois qu'ils embarquent sur un bicycle.
Tu veux mes pipes?
Ouais, non, mais je le comprends. Oui. Je le comprends tout à fait, hein? Puis c'est légitime. Mais imagine d'ouvrir un health club juste pour les hommes. Non. Ça passera pas, là. Puis c'est ça, Que je comprends pas. Il faut que quelqu'un m'explique ça. Là. En quoi le fait d'avoir ça, ça ferait de l'oppression, ferait de ci, ferait de ça. Non.
Je parle même pas en termes de... Là, on parle de choses de loisirs, mais quand on regarde juste les services à la disposition des hommes en difficulté...
Il y en a pas!
Ça existe à peu près pas. Je pense qu'au Canada, là, on peut les compter sur les doigts de la main, les centres pour hommes. Je pense que dans la région de Toronto, je crois qu'il y en a juste un. À Montréal, il y en a un. Alors que pour les femmes, il y en a à peu près 300 à la région de Montréal. C'est, ouais. Il y en a beaucoup. Et il y a beaucoup d'hommes qui vivent énormément de détresse. Ils n'ont pas accès à autant de ressources. Et quand ils vont dans les centres pour femmes pour chercher de l'aide, parce que c'est les seuls qui existent, à toute fin pratique, ils les revirent de bord.
Ouais.
Et
les polices vont les virer de bord. Un homme qui a des problèmes avec sa conjointe, d'abus ou peu importe, s'il s'en va voir la police va rire de lui puis elle va lui dire de retourner chez lui puis de s'occuper de ses affaires. Fait que... Puis là, on peut en parler, là, la violence conjugale, là, c'est pas aussi unidirectionnel que les gens pensent.
En fait, c'est très bien réparti. Les gens violents dans un couple, là, c'est 50-50, hommes et femmes.
Bon.
À peu près, là. Alors, l'image de la femme victime elle est fausse. C'est-à-dire, oui, il y a des femmes victimes,
ouais.
mais il y a des hommes qui sont victimes ouais. de ça et ils n'ont aucun réseau
puis,
de support.
Puis je comprends pas pourquoi c'est mal vu. T'sais, on rit de ça. On n'en entend pas parler de un parce que les hommes ils sont pas stupides. Ils savent que s'ils en parlent, ben ça va être une joke. T'imagines, pensez à n'importe quel homme que vous connaissez là, dans une relation ou vous-même. Puis imaginez là, aller dire à votre meilleur ami, ouais, ma femme me bat. On est tellement mindé à qu'est-ce que ça devrait être que la réaction de la part des gens, ça serait de rire. Puis de dire, ben voyons, danse, c'est quoi ta affaire là?
En fait, c'est carrément ça. Hein. Sur Internet, maintenant, il y a des vidéos qui s'appellent des expériences sociales. Je suis un peu con en général, mais des fois, l'exercice est quand même intéressant. Ouais. On avait un scénario où tu avais un homme qui était en dispute avec une femme qu'on présumait être sa blonde. Ouais. Il commençait à être un peu rough. Il commençait à la barder un petit peu, puis immédiatement, là, c'était dans un lieu public, dans un parc.
Ouais.
De nombreuses personnes sont intervenues pour les séparer, pour tasser le gars. On a inversé les rôles, alors c'est la femme qui battait l'homme, et là, dans le même parc, là, tu m'apprêtais qu'ils ont fait ça la même journée, on voyait des gens se mettre à filmer en riant, puis
c'est drôle.
La réaction était très différente.
Mais imagine que t'es ce gars-là, là, qui est en train de se faire humilier par sa copine en public, OK, puis tu peux rien faire. Okay. Tu peux pas te défendre, parce que si tu te défends, ben là, tu deviens un abuseur, tu deviens quelqu'un qui est en train d'opprimer la femme avec ta force, ta puissance. Mais tu sais, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le gars, là? Tu sais, il n'y a pas de porte de sortie.
Ben, ça, c'est bien que tu le mentionnes, parce que c'est exactement le cheminement des conflits conjugaux qu'on observe dans la littérature, dans les rapports de police. Ce qui va arriver, là, le portrait général, je ne dis pas qu'il s'applique à toutes les situations, mais de façon générale, en moyenne, les femmes vont initier les conflits, vont utiliser davantage d'armes contondantes pour pallier à leur infériorité physique. Donc, ils vont utiliser, mettons, les fameuses poêles à frire, là. C'est de là que ça vient. Donc, et les hommes vont davantage réagir aux agressions, mais ils vont moins souvent frapper, mais quand ils vont le faire, ça va être leur point, puis ça va faire ses efforts.
Ouais.
Fait que le portrait, c'est ça, c'est qu'il y a des femmes hyper agressives qui vont utiliser des objets pour, comme, poker à l'infini.
C'est de l'usure, en fait.
Alors que...
ça vient à l'usure.
Et à un moment donné, le portrait, c'est que l'homme va complètement comme snapper, va perdre le contrôle et va juste lui rentrer dedans.
Ben oui. Ça fait 15 ans que la fille a tes cœurs, là. M'a donné, t'en peux plus, là.
Et c'est pas d'excuser son comportement. On devrait jamais se rendre là. Jamais.
Pas du tout.
Mais la situation, c'est que quand on regarde, en moyenne, la force du haut du corps, un homme en a 50% de masse musculaire de plus. Ça fait en sorte là, que si tu veux étamper ta conjointe dans le mur, là, elle ne pourra plus à peu près rien faire. Et il faut éviter de se rendre là. 50% de la violence conjugale est faite envers des hommes et présentement, il n'y a aucun mécanisme en place pour les aider à ne pas escalader la situation jusqu'à sa vire en violence ou en meurtre suivi d'un suicide.
Puis en fait, c'est ça que ça prendrait. Ça prendrait des ressources, ça prendrait une campagne de publicité, ça prendrait beaucoup de choses pour sensibiliser les gens ou sensibiliser les hommes qui vivent ces situations difficiles-là. Comment aller se chercher de l'aide? Puis là, entendez-nous bien, là. On n'est pas en train de dire que c'est la faute des femmes, là. Pas du tout. Pas plus que je dirais qu'un homme une femme qui se fait battre, que c'est de sa faute non plus. Là. Ça marche pas de même. Là.
Les situations, c'est complexe.
C'est très complexe. j'ai déjà vécu une relation abusive. C'est pas évident, c'est difficile. Puis pour te sortir de ces choses-là, sans ressources, c'est tough. C'est vraiment tough.
Il faut être fait très, très fort. Et présentement, il y a des groupes d'hommes qui commencent à se créer, à s'organiser, que ça commence à devenir acceptable, mais il y a zéro intérêt de la part des groupes féministes. Tous les groupes que j'ai mentionnés, peut-être que je mettrai les références en dessous du podcast, mais en Amérique du Nord, tu as peut-être une dizaine d'organisations féministes. Il n'y en a pas une dans leurs revendications qui sont intéressés par des enjeux masculins. Il n'y en a pas un. Il n'y a pas un seul enjeu qui touche les hommes dans les 10 organisations féministes en importance en Amérique du Nord. Évidemment, leur conseil d'administration n'est que composé de femmes, alors c'est sûr que peut-être qu'ils ont moins le réflexe d'y penser, mais on s'attendrait à ce que des gens qui se disent les championnes de l'égalité considèrent les enjeux masculins dans leurs revendications. T'sais, ce serait ça, à mon avis, l'égalité. Au Canada, on en a une. L'Association canadienne pour l'égalité, ils ont des succursales dans toutes les grandes villes du Canada, y compris à Montréal. Ils font souvent des conférences. Il y en a d'ailleurs une à Toronto vers la fin du mois de novembre, je crois le 23, sur la nouvelle loi que Trudeau fait passer au niveau de la preuve admissible en cours lors de cases d'agression sexuelle. On aura l'occasion d'y revenir, parce que c'est moi, pour
on
moi
est,
ça me préoccupe.
On est dû pour un retour sur les lois du gouvernement Trudeau.
Oui, il y en a beaucoup à traiter. Ouais, c'est 16, Trudeau d'ailleurs. A changé la face juridique du Canada. Son père, qui était un prof de droit constitutionnel à l'Université de Montréal, je pense pas qu'il aurait apprécié. Bon.
En tout cas, on reviendra.
Oui, on y reviendra. Il y a du stock à dire là-dessus. Donc, premièrement, il y a un enjeu au niveau des services offerts aux hommes qui paient des impôts comme tout le monde, là, mais il n'y a rien pour les aider. Et quand ils cherchent de l'aide, souvent, ils sont ridiculisés. Et on mentionnait, par exemple, dans le cas du colloque à l'Université de York, les féministes sont contre. Un autre enjeu qui va un petit peu dans la même lignée où il y a une espèce de traitement asymétrique, alors que ça devrait plutôt être égal, c'est au niveau des droits reproducteurs. Les hommes en ont à peu près pas. Ils sont dépendants de la décision de leur partenaire de garder ou non l'enfant. C'est-à-dire que les hommes n'ont aucun droit de retrait de la paternité. Et c'est une position qui se défend. T'sais. Il y a beaucoup de gens qui vivent sans père, et puis c'est généralement une mauvaise chose. Probablement qu'une des pires choses que vous pouvez faire à un enfant, c'est de l'élever dans un contexte de monoparentalité. Très difficile d'élever un enfant seul. Et les statistiques démographiques là-dessus le confirment.
Je serais curieux, par exemple, de voir si on pouvait élever des enfants dans la monoparentalité dans des conditions positives, tu sais, avec une famille qui a de l'argent, avec beaucoup de soutien.
Il y a des cas
de
où famille. Ça marche.
C'est clair que ça marche.
Il y a des cas
c'est
où
clair
ça
que ça peut marcher.
Mais ce qui est difficile,
mais souvent, dans les femmes qui se retrouvent dans des situations difficiles de monoparentalité, c'est déjà il y a déjà plein de problèmes, fait que c'est difficile de.
Ça va plus loin que ça. C'est pas juste une question de cash ou de structure économique de la famille. Ouais. C'est aussi une question de développement psychosocial.
Oui, absolument.
Quand on parle de maternage, là, c'est quelque chose là, qui est nécessaire pour le développement d'un enfant. Quand tu vas dans les orphelinats, les enfants à bas d'un an, ils ne sont pas maternés. Là. C'est des contacts physiques, affectueux. Ils meurent. Ils ont beau être nourris, logés. Ouais. S'ils n'ont pas de contact, là, les mammifères ont besoin, toutes espèces confondues, d'être cajolés, de sentir de l'affection. Pas de l'amour, de l'affection. D'être touché. Ils en ont besoin. Le maternage, c'est ça. C'est de garder les enfants proches de soi puis de les protéger. Puis la job du père, ben généralement, c'est de dire au kid, peux-tu grimper jusqu'en haut de l'arbre? T'sais, c'est de l'amener à s'extérioriser, à sortir de sa zone de confort, à prendre sa place dans le monde, mais si ça marche pas, peut retourner dans le nid douillet, sécuritaire, plein d'amour. T'sais, c'est un peu ça la dynamique. Et c'est très difficile pour un parent, homme ou femme, de conjuguer les deux rôles. À la fois d'être la source de sécurité et à la fois de la personne qui encourage à s'extérioriser. Puis encourage, c'est ça, c'est le mot encourager, donner du courage de faire des choses difficiles. C'est difficile pour une seule personne de concentrer le rôle de sécurité et de danger. C'est pour ça que la dualité fonctionne relativement bien et les familles monoparentales ont une lourde tâche sur les épaules. Souvent, ceux qui vont fonctionner, c'est parce qu'ils vont avoir un réseau d'amis
exactement.
Très présent.
Ouais. Mais, ou genre un oncle ou une tante.
Oui.
Qui est, tout, grand-père, grand-mère.
Tout peut finir par fonctionner pour autant que des bonnes intentions. Mais bon, c'est un autre sujet.
Souvent, ça revient au réseau de soutien. C'est aussi simple que ça.
Et ça, d'ailleurs, les femmes ont des réseaux de soutien en moyenne beaucoup plus étendus que les hommes, qui généralement sont plus solitaires.
Les hommes ont des chums, là, juste des chums pour aller s'installer, regarder un match de hockey ou pour aller s'installer, boire une bière. En général, tu vas à la pêche, tu vas faire du camping, du genre de trucs, des activités de gars. Mais les filles, ils s'installent, puis ils parlent de toutes leurs émotions, puis qu'est-ce qui se passe, puis leur vie, puis tous les détails intimes. Ils se connaissent de fond en comble. S'il y en a une qui a mal à leur taille, l'autre, elle le sait. Mais les hommes, là, tu le dis pas à ton chum, là, ma femme me bat. Ça marche pas de même.
Ça, on peut-être qu'on aura l'occasion de revenir au niveau des différences hommes-femmes. On avait un petit peu abordé dans le premier podcast sur le féminisme, mais là, on veut vraiment qu'on reste dans le sujet des hommes, parce que c'est quand même assez à propos. Mais juste une petite parenthèse. Les hommes et les femmes ne gèrent pas les émotions de la même façon. Puis il y a des études qui montraient que les hommes retiraient la même satisfaction émotionnelle de fesser sur un punching bag que, mettons, une femme de parler de sa journée difficile.
Wow!
Et c'est pour ça que, sans doute, un des meilleurs catalyseurs pour les hommes, c'est l'activité physique, le sport. Ça fonctionne assez bien en général.
Je le sais, moi, si je vais au gym et je fais de l'activité physique, je me sens. Moi, je suis refait après. Là.
Oh oui.
C'est comme il n'y a plus de problème après.
Droit reproducteur. je te ramène.
All right, let's go, on retourne.
Droit reproducteur, c'est quelque chose qui est quand même assez important. Parce que gardez en tête qu'au niveau fiscal, là, on rentre quand même dans ce qu'on appelle le système économique dans lequel on se trouve. Là. C'est, t'as pas le choix. Si tu le payes pas, tu vas en prison.
Ouais.
Les hommes paient la majorité des pensions et les femmes initient la majorité des divorces.
Ouais.
Une pension, c'est non déductible d'impôt et c'est non imposable pour la personne qui la reçoit. C'est un traitement qui est quand même assez curieux.
Mm-hmm.
Parce que les hommes vont payer de l'impôt sur de l'argent qu'ils
mais ça,
ont
là,
pas.
Ça veut dire que les hommes ont moins d'incitatifs à courir après le divorce. Fait, imagine un homme qui est malheureux dans son couple puis qui sait, à cause de toutes ces stipulations-là, qu'il va se retrouver à payer une pension alimentaire, puis une pension pour les enfants, puis tous ces trucs-là. Puis que là, après, que ça va le ruiner financièrement, là, parce que la façon qu'ils font les calculs, ça n'a pas de sens.
Il y a beaucoup de suicides de la part d'hommes suite à un divorce, justement. C'est une épreuve financière, émotionnelle, qui est très difficile à surmonter sans justement un bon réseau de sport. Oui. Très difficile.
Parce qu'il se retrouve tout seul après.
Oh, absolument.
Il se retrouve tout seul.
Et bon, c'est fait que le cadre juridique est bien souvent à la faveur des femmes. Par exemple, au niveau de la sévérité des sentences en droit criminel, en moyenne, c'est 60% moins sévère pour un même crime envers une femme.
Ouais, c'est drôle, les féministes, ils.
Moi, j'aimerais ça qu'ils commencent à militer pour des sentences plus longues.
Ben oui.
Égalité dans les sentences. Mais si je peux finalement. Oui, je peux finalement finir le point sur les droits reproducteurs. C'est que. Si les femmes ont un droit de retrait de la maternité, avec avortement, avec l'adoption, les hommes en ont pas. Une fois que la femme est enceinte et qu'elle décide de le garder, l'homme n'a pas un mot à dire.
La fille, là, c'est qu'elle décide « Hey, toi, mon trou de cul, là, tu ne l'as pas, mon enfant, puis tu ne le verras pas. » En général, il s'arrange pour pas que tu le vois. Puis ça, là, je l'ai vu.
Ben, ça, c'est l'autre point, c'est l'accès aux enfants. Il y a quelques années, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait l'organisation Fathers for Justice.
Oui.
Tellement désespéré, il fallait qu'il grimpe ses ponts pour avoir de l'attention des médias. Ça montre à quel point il était, de un, en détresse, et de deux, qu'il y avait un enjeu à régler. C'est très difficile. Les mères se font encore octroyer la majorité des gardes exclusives pour les enfants. Peut-être que, d'une part, peut-être qu'elles le veulent plus, mais je ne suis pas certain de ça. Moi, je vois beaucoup de pères qui se battent pour leurs enfants à grands coups d'argent. Ça coûte cher faire un divorce. Ils se battent vraiment contre le système. Et ce serait impensable de dire à une femme qui se fait avorter, t'avais juste à te protéger si tu voulais pas avoir un enfant.
Oh my God. T'imagines.
Ça passerait pas. Mais maintenant.
Et de raison. Ça passerait pas, ça devrait pas passer non plus.
Mais maintenant, on dirait que c'est rendu acceptable de dire à un homme, ben là, si tu voulais pas d'enfant, t'avais juste à te protéger. Il y a encore une asymétrie.
Puis on s'entend qu'il y a mille et une raisons pour que la protection pourrait ne pas marcher. Il n'y a aucune protection qui est infaillible. Là, fait que.
Ben d'ailleurs, on a quand même plusieurs cas de jurisprudence intéressante au Québec de femmes qui se sont inséminées à partir du condom et qui sont ensuite allés réclamer une pension. Alors là,
tu me niaises.
Oh oui, il y en a qui vont essayer.
Tu me niaises.
Non, c'est très beau. C'est des beaux cas. Mais le fait que, justement...
Juste pour ça, là, ils mériteraient de se faire enlever leur enfant parce que ça montre que tu as tourné pas rond dans leur tête. Hey, c'est un peu dégueulasse.
Il y a des gens avec des comportements assez disgracieux, j'en conviens avec toi. Mais le point, c'est que, pour moi, il doit avoir un projet parental.
Mais c'est clair. Ouais.
Si un des deux veut pas l'enfant, par exemple, la femme... Puis il y avait eu un cas, justement, qui s'est ramassé en jurisprudence où la femme voulait se faire avorter et le père lui avait dit « Non, tu vas porter l'enfant parce que moi, je le veux. » Là, c'est un cas intéressant, ça.
Mm-hmm.
Et... la femme avait évidemment gagné parce que ça aurait été un préjudice financier, humain, très important, juste parce que monsieur voulait avoir l'enfant. Fait que je comprends que il y a un déterminisme biologique qui fait en sorte qu'on se retrouve avec une disparité au niveau du droit. Puis c'est correct. Mais par contre, l'envers de la médaille, c'est que les hommes devraient avoir un droit de retrait de la paternité pour que s'ils restent, puis que ce soit vraiment un projet parental, ils ne soient pas pris. Parce que vraiment, c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas d'options, ils n'ont pas de choix, et c'est un fardeau financier très important qui souvent arrive quand ils sont jeunes, qui commencent leur vie, absolument. Ouais. J'ai quelques amis dans cette situation-là, et je les aide un peu avec leurs finances. Et honnêtement, je regarde leurs dépenses de frais fixes, ils n'ont aucune marge de manœuvre. Ils ne peuvent que rester pauvres dans leur situation.
Ouais, c'est affreux, ça.
Ils regrettent pas pour autant, parce qu'ils sont quand même contents d'avoir temps qu'ils ont avec leurs enfants.
Le bonheur, ça fait pas dans l'argent, là. Jusqu'à un certain point, là, fait que c'est sûr qu'on peut trouver notre bonheur.
Je veux dire qu'il y a il y aurait matière à débat de pouvoir discuter d'un droit de retrait de la paternité. Oui. Et ça, quand on le soulève dans l'espace public, les féministes crient immédiatement au drame. On parle du Conseil social de la femme, Fédération des femmes du Québec, s'y opposent systématiquement.
Mais c'est hypocrite, parce que de l'autre côté, ils vont se lancer dans la rue en criant « On n'a pas besoin d'hommes, on peut tout faire tout seul! » Mais là, c'est un ou l'autre, là. C'est... je sais pas, à moins que tu peux me prouver qu'on a de facto une responsabilité. Tu sais que je veux dire que je vois pas, là. Ça se fait à deux, cette affaire-là.
Oui, oui. Si l'argument est bon pour les femmes, il est bon pour les hommes aussi.
C'est ça!
Et si quelqu'un affirme que c'est pas le cas, ben à ce moment-là, il y a le fardeau de la preuve. Explique-moi en quoi ces deux situations-là sont différentes. J'ai beaucoup réfléchi, puis je vois pas comment on pourrait arriver à autre chose.
Mm.
Personnellement, je souhaiterais, surtout à la lumière de toutes les révélations qu'on a des scandales sexuels dans le milieu artistique, je souhaiterais qu'on fasse la promotion qu'une relation sexuelle, c'est pas juste du cul, hein, c'est aussi une relation entre deux individus et mettre l'accent sur la qualité de cette relation-là plutôt que juste l'aspect charnel. Mm-hmm. Peut-être qu'on aurait moins de problèmes.
Oui.
On verra. Évidemment, c'est des dossiers qui sont très litigieux, très chargés. On aura l'occasion
de revenir. Oui, mais ces histoires d'allégations sexuelles-là, là, on pourra y venir à un moment donné. Il y a de l'exagération puis il y a de la vérité là-dedans. Là. Je pense qu'il y en a un peu des deux, mais bon. Un autre sujet pour un autre jour.
Les disparités qu'on retrouve sur le plan juridique, c'est-à-dire le traitement différentiel que les hommes et les femmes reçoivent devant la loi, tire son origine en grande partie du modèle de Duluth, qui est au fond un case study des années 70 et qui au fond mettait les jalons de la fameuse hiérarchisation de l'oppression dont je te parlais plus tôt.
Mm-hmm.
Et c'est là-dessus que tout se base. C'est le modèle de Duluth qui va présumer que les femmes sont victimes en toutes circonstances et que les hommes sont les oppresseurs. Alors que bien souvent, c'est juste pas le cas. Les hommes peuvent être dans une situation de victime et quand ils le sont, reçoivent très peu de support. Et ça commence à la naissance. C'est le traitement asymétrique au niveau des mutilations sexuelles. La circoncision, si c'est pas pour une question médicale, hein, c'est juste pour de l'esthétisme, c'est une mutilation sexuelle.
C'est banalisé dans la médecine, c'est banalisé dans la culture. On dirait qu'on n'y pense même pas deux fois. Tu te chopes le bout, puis that's all. C'est pas plus grave que ça.
C'est un enjeu d'éthique rendu à ce point-là, parce que c'est un enfant qui n'est pas en mesure de consentir à une chirurgie très invasive et qui, historiquement, cherchait à réduire le plaisir sexuel.
Douloureuse!
Ben oui,
les enfants, là, ils font ça à froid, là, premièrement, puis ils crient, là, ils crient de la mort! c'est inacceptable qu'on fasse ça à un bébé. Tu sais, on ferait... C'est ça, je comprends pas de cette situation-là. Les parents, en général, là, quand ça vient à leur bébé, là, écoute, la minute qu'il se sent mal à l'aise, le bébé, tu cours pour le cajoler, pour lui faire du bien, pour s'assurer que ça va. Puis là, tu vas être choppé le zizi pour absolument rien. OK, là? On s'entend que c'est pour absolument rien. Pourquoi? Ben parce que son père, il est conscient, fait qu'on va le faire la maison aussi. Non. J'aime pas ça, les prépuces. Ben oui, mais too bad, là. C'est pas à toi. C'est pas à toi.
Ah ouais. C'est pas juste douloureux, hein. C'est plus loin que ça. On a fait... on a mis un électroencéphalogramme sur la tête d'un bébé, justement, qui se faisait circoncire. On a mesuré l'activité cérébrale. C'était inouï, le niveau d'intensité de la douleur qu'il avait ressenti.
Mais c'est sûr! Juste à y penser, ça me fait mal. Okay? Je peux même pas, là. Puis je sais qu'il y a beaucoup de filles qui trouvent ça, des femmes qui trouvent ça drôle, là, quand on passe ces choses-là, là, parce qu'on réagit vraiment viscéralement à ce genre de douleur-là. Mais c'est parce que je pense qu'ils réalisent pas à quel point, là. C'est débile.
Mais ça, c'est intéressant, parce que c'est un leg évolutif. C'est-à-dire que la majorité des nerfs sensitifs de notre appendice viril se trouvent dans l'abdomen et non pas à l'extérieur.
Ouais.
Donc, la douleur est dans l'abdomen et,
ouais, c'est, ça.
Et c'est global, c'est comme douleur.
Oui, c'est vrai, parce que quand tu as un coup de pied ou une boule dans les testicules, là, puis c'est pas les testicules qui fait mal, c'est à l'intérieur que ça fait mal. Ça pisse, ça, c'est indiscret. Je peux même pas te décrire, c'est tellement douloureux.
Ben, tu sais, ils ont fait le test, tu sais, les fameux tests où tu branchais des hommes à des chocs électriques pour simuler les contractions lors d'un accouchement. Ouais. Ils ont fait la même chose avec des femmes. Ces vidéos-là ont été beaucoup moins viraux, par contre.
C'est drôle.
Ils ont mis les femmes sur des chocs électriques. Le genre de douleur musculaire que tu ressens, c'est pas la même chose. Non? C'est pas une douleur musculaire. Là. C'est une douleur au niveau de la stimulation des nerfs dans l'abdomen. C'est pas des muscles. Mais pour donner une idée, elles étaient pliées en deux et une qui a même vomi.
Ben, c'est la bonne réaction, je te dirais.
Oh oui.
Il y a plein de gars qui sont fait cogner les boules et qui ont vomi aussi. Là.
Oh oui, c'est très douloureux.
Ouais.
D'ailleurs, si tu veux être agressé, très bon spot à attaquer. Parce que peu importe à quel point les hommes essayent de se durcir de partout avec la musculation, ils vont toujours rester mous à cette place-là. Sur une note, évidemment, le mot, c'est pas de faire une blague sur la circoncision. Là. C'est un enjeu de santé publique et d'éthique médicale qui s'ajoute un peu.
Ouais.
Et, quand on prend chaque élément individuellement, peut-être qu'il n'est pas si grave, mais quand tu vois le portrait d'ensemble, les hommes sont laissés à eux-mêmes dès leur naissance, et ça, toute leur vie. Et ça se répercute à l'école. Le taux de diplomation des petits garçons, présentement, taux de décrochage scolaire, c'est un problème sérieux.
Mm-hmm.
Et présentement, tout ce qu'on voit dans les médias, c'est qu'on célèbre la réussite des petites filles. Puis, on a un gros problème, présentement.
Oui, on a un gros problème.
Parce que, qui est-ce que vos petites filles vont marier? Qui est-ce que vos petites filles vont... avec qui ils vont fonder une famille si tous les petits gars, ils décrochent? Puis présentement, là, c'est un phénomène qui commence à être documenté là, tranquillement pas vite. Ça s'appelle le sexodus, où les jeunes hommes, les adolescents, laissent tomber les relations amoureuses, laissent tomber l'école, laissent tomber le travail, se réfugient dans la porn, les jeux vidéo, puis le sport.
Ouais, c'est pas super comme vie.
Effectivement.
Ça me sonne parfait.
Je comprends pourquoi ils font ça. Ben oui.
Il est où, là, que je peux m'inscrire?
Dans les écoles, les petits gars sont traités comme des fillettes défectueuses.
Ouais.
C'était d'ailleurs le sujet du livre de l'auteur, une des rares féministes que j'aime lire, Christina Hoff Sommers. Sans doute, je l'aime parce qu'elle se fait traiter de traître par les féministes. Fait que si tu te fais envoyer chier par les féministes, c'est souvent parce que tu fais de quoi
c'est
de bien.
C'est un bon signe.
C'est ça. Mais elle, dans son livre, qui s'intitule « War on Boys », la guerre envers les petits gars, elle parle justement de tous les mécanismes dans les écoles, dans les commissions scolaires, pour dégrader et démobiliser les jeunes garçons de l'école. Ça commence au primaire, ça continue au secondaire. Fait que c'est pas surprenant quand on arrive à l'université, c'est largement dominé par des femmes. Dans toutes les disciplines, sauf physique, maths, ingénierie. Tous les STEM fields, là, il y a quelques disciplines où il y a encore plus de garçons, mais ce sont les seuls. En moyenne, les universités, là, c'est pratiquement juste des femmes qui graduent en ce moment.
Ouais.
Mais, et malgré tout, tu as quand même des bourses comme avec les chapeaux des filles pour les inciter à aller en ingénierie. Je suis comme, il n'y a pas d'équivalent pour les garçons pour les inviter à aller dans d'autres disciplines.
Il n'y a jamais personne qui va se plaindre qu'il n'y a pas de gars dans
infirmerie.
Infirmerie ou en nutrition ou service social en général. C'est toutes des filles. Psycho, c'est la grande majorité, c'est des filles.
Puis même par rapport aux sciences, il va falloir qu'on m'explique en quoi, mettons, l'ingénierie, c'est discriminatoire, sexiste, misogyne, mais pas la biologie, la médecine, ou ces choses-là. Ce sont deux domaines scientifiques de pointe, mais les femmes ont des intérêts différents. Bon.
Je pense que une des différences, puis je le sais parce que l'ingénierie, c'est un peu ça mon domaine, là, indirectement, parce que c'est un milieu qui est principalement mâle, puis je le sais, là, on est en recrutement là, en ce moment dans mon département, dans mon équipe. On a, oh mon Dieu, des CV et des entrevues là, dans les derniers mois, là, je peux même pas te dire. Écoute, il n'y en a pas de CV de filles. On n'en reçoit pas. Il n'y en a pas. Fait que, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne un environnement très, très mâle. Donc, peut-être que pour ces filles-là, peut-être que ça les intimide, peut-être que ça fait un environnement beaucoup plus masculin, plus macho. Ça se peut. Tu sais, ça se peut.
Quoi qu'il y ait des femmes qui disent apprécier les environnements plus masculins.
On a une fille dans notre équipe, puis elle, c'est drôle, j'en ai parlé la semaine dernière, puis c'est une des choses qu'elle m'a dit qu'elle appréciait de notre équipe, c'est que c'était une atmosphère mâle, puis qu'il n'y avait pas. Puis ça, c'est ses paroles, pas les miennes, qu'il n'y avait pas plein d'affaires de filles. Fait que. Puis, c'est pas une lesbienne, c'est pas une féministe, c'est une madame de, je sais pas, elle a donc 54-55 ans, là, tu sais. Puis, elle a un copain, tout le kit, fait que, tu sais, c'est pas, c'est pas une anti-fille, c'est pas une anti-homme, mais elle apprécie ce qu'on lui offre.
Ça, d'ailleurs, c'est quand même intéressant ce que tu dis, parce que ça me fait penser à un cas super intéressant de psychologie industrielle. Quand on regarde dans les domaines principalement féminins, il y a beaucoup de conflits de travail et souvent ça dégénère. J'ai en tête un exemple qui était survenu à l'hôpital. C'est l'hôpital Saint-Luc, je pense que oui. Où tu avais eu sur un étage une nouvelle infirmière qui est arrivée et qui avait soulevé la jalousie des autres infirmières. Ça avait dégénéré au point où il allait changer ses perfusions pour essayer de la faire mal paraître, mais dans le processus mettant en risque la vie des patients. Ça peut dégénérer. Bon. Une petite parenthèse, j'ai trouvé le cas assez intéressant d'un point de vue de psychologie industrielle. Mais le fait est que dans les universités, présentement, c'est majoritairement féminin. Demandez à n'importe quelle fille qui tu peux bien dater dans un campus universitaire, il y a de moins en moins de gars. Le bassin se réduit et c'est célébré en ce moment dans la société. Je suis comme, non, on a un problème d'éducation des petits gars, à un point tel que et on entend souvent les féministes chialer contre le wage gap, là, comme quoi ils gagneraient
le wage gap 77
cents pour chaque pièce.
Moi, là, je suis plus capable d'entendre parler du wage gap. Ça me fait grimper dans les rideaux.
Non seulement ça a été invalidé par n'importe quel économiste du travail un temps soit peu sérieux, mais c'est juste faux. Bon, à un moment donné, si on y en a qui veulent en discuter, on peut... Moi, je suis dans de m'ostiner là-dessus. Mais par contre, on observe ce même wage gap-là chez les nouveaux diplômés, à peu près dans la vingtaine, jeunes femmes non mariées, sans enfants, gagnent plus que les garçons de leur âge. Parce qu'elles ont gradué l'université et beaucoup moins les hommes. Ben, en moyenne, présentement, ça semble montrer qu'il y a une disparité. Évidemment, c'est des questions de choix. Mais le fait est que on a un problème au niveau de l'éducation des petits garçons. Parce que c'est quelque chose qui est en diminution. C'est pas stable, ça diminue. Les filles, elles, ça augmente. Pourquoi? Suggérer des éléments de réponse, on se fait traiter de misogyne.
Ou même faire allusion qu'il y a un problème, tu te fais traiter de misogyne. C'est aussi simple que ça.
Ouais. Mais de toute façon, je comprends aussi les jeunes garçons d'éviter les universités, parce que ce sont devenus des environnements assez hostiles aux jeunes garçons. C'est pas encore rendu au Canada, mais ça s'en vient tranquillement pas vite. Aux États-Unis, les premières années doivent les jeunes hommes des premières années doivent subir des cours sur le viol, parce qu'on va présumer que tous les hommes sont des violeurs en puissance.
Mais ça, c'est pas partout. J'ai demandé à mon ami Patrick. Puis
dans beaucoup d'universités américaines, c'est comme ça en ce moment. Scène. C'est une tendance à la hausse. Ouais. Au Canada, il y avait, je pense, une prof de... Je pense que c'est une prof d'un cours de sciences politiques ou de sociaux qui donnait un droit de parole préférentiel aux femmes du cours. Je pense que c'est l'université de Dalhousie. Et absolument, c'est ridicule parce que c'était pour contrer ce qu'elles appellent affectueusement le mansplaining. C'est vraiment le fait que les hommes sont assez verbomoteurs et tendent à être très, très actifs dans des conversations. Mais ça, c'est tous les mots, là. Mansplaining, manspreading, man-interrupting, ils font exactement ce qu'elles reprochent aux sexistes, c'est-à-dire de réduire une personne à son sexe et généraliser un comportement négatif à l'ensemble des hommes.
Bon, Par exemple, n'aie pas le malheur de parler de purse spreading, puis de leg crossing, parce que moi là, ici, il y a une affaire qui m'écœure dans le métro, là, c'est quand tu as une petite madame qui est assise sur son banc, qui a les pieds, qui a les jambes de croisée, puis qui se fait bouncer le pied à je sais pas combien à l'heure, puis que tu peux pas passer parce qu'elle a son hostie de talon haut qui va te poquer. Puis qu'elle prend trois places avec ses sacs de magasinage puis son truc.
Ben moi, je leur dis, c'est pas... Même
ça. Ah! Moi, je suis un petit peu weird. Moi, je les vois dans le métro, là, puis je vais direct pour. Puis là, je fais...
Un peu masochiste,
Gab. Puis là, je fais, ah, est-ce que je peux m'asseoir? Puis là, ils me regardent, il faut qu'ils pognent leur sac puis les affaires, puis là, ils sont pas contentes, là, parce que t'as osé vouloir t'asseoir. Hey, c'est pas... T'as payé ta passe de métro comme moi, là, tasse-toi.
Sans doute qu'un des pires mots sexistes, c'est pas manspreading ou man-interrupting, manspreading, tous ces mots-là qui sont répréhensibles et qui devraient pas être utilisés dans un contexte de vie civique. Mais surtout que le pire, c'est plus en anglais qu'on utilise ça, le toxic masculinity, où on va ériger tout ce qui est masculin comme étant quelque chose de nuisible à la société.
Oh, give me a break.
C'est quelque chose qui est très profond en ce moment dans les groupes féministes, allez voir les blogs, que ce soit, mettons, les gros blogs en ce moment sur Internet, là, c'est comme Everyday Feminism, Feminist
Frequency. Il faudrait faire une différence entre le machisme puis la masculinité. Il y a une différence. Écoute, c'est complémentaire. Féminin et masculin, ça se complémente. Fait que t'as un extrême féminin comme t'as un extrême masculin. Les deux sont mauvais. Fait que toxic masculinity, là, il peut
se mettre où je pense. Mais tu vois, c'est comme s'il n'y a pas d'opposition dans l'espace public pour leur dire hey, ça va trop loin. Là, c'est parce que vous êtes en train de démoniser tous les hommes sur la base de leur sexe.
Ben oui.
Puis, tu sais, là, on a parlé de plein de sujets qui déterminent l'aspect de leur vie, mais on pourrait parler de la santé et sécurité au travail où les hommes forment la majorité des victimes, que ce soit d'accidents de travail, causant des blessures ou carrément la mort. Dans les forces armées, la majorité des gens qui s'enrôlent sont des hommes aussi, donc forment naturellement la majorité des décès. Les hommes prennent beaucoup de risques au plan corporel, puis je sens pas que c'est un enjeu qui est défendu par les différents groupes sociaux qui disent être en faveur de l'égalité.
Fait que, mesdames et messieurs, sur ça, je pense qu'on va s'arrêter. Ça fait déjà une heure qu'on chiale. On va vous souhaiter une excellente journée internationale de l'homme. Je vais vous rappeler qu'on peut vous pouvez nous rejoindre, comme d'habitude, à tous les endroits habituels. Vous pouvez aller nous voir sur notre page Facebook à Québécois Balado. On a notre site web, québécois.ca. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre podcast sur iTunes, sur Google Play. Et aussi, vous pouvez nous laisser des messages sur notre ligne téléphonique, le 1-888-458-4443, 1-888-458-4443. Puis, ça arrive qu'on vous rappelle si vous laissez un numéro, parce que si vous avez des affaires intelligentes à discuter, mais nous autres, on aime ça, discuter. Donc, n'oubliez pas, likez-nous, partagez-nous, mettez votre petite face enragée, commentez, partagez. On aime ça. On va vous répondre. Fait que sur ce, mesdames et messieurs, c'est tout. Bonne semaine. Ciao. À bientôt.
À la prochaine.